historiquement vôtre, et c'est le moment de l'émission où normalement on se fend un peu la poire en remontant aux origines d'une invention parfois comique avec David Castello-Lopez. Aujourd'hui, l'invention n'est pas très comique, mais l'histoire est fascinante et intéressante. C'est l'histoire de l'avortement aux États-Unis.
Oui, la fente de poire va être modérée pendant cette chronique, je vous préviens. Alors, les États-Unis, ils ont légalisé l'avortement en 1973, c'était 2 ans avant la France quand même, petite gloire des États-Unis. Et cette légalisation de l'avortement, elle est passée par un jugement de la Cour suprême. La Cour suprême, en gros, elle a jugé que le fait d'avoir un bébé ou pas dépend de la vie privée des femmes et l'État américain n'a pas à interférer dans cette vie privée. Ce jugement, c'est peut-être le plus célèbre de l'histoire des États-Unis et il a un nom, il s'appelle Roe versus Wade. En français, Roe contre Wade. C'est le nom du jugement. Alors, c'est quoi Roe et Wade? Eh bien, ce sont des gens, Jane Roe et Henry Wade. Et derrière ces noms se cache une histoire de malade mental que je vais vous raconter. Alors Henry Wade, c'était le nom du premier procureur qui avait géré l'affaire sur laquelle la Cour suprême a dû statuer. Mais le plus intéressant, c'est Jane Roe. Jane Roe, c'est le pseudonyme d'une dame qui s'appelait Norma McCorvey. Norma, dans les années 60, de son propre aveu, c'était une junkie alcoolique qui avait une sexualité un petit peu débridée. Alors, dans l'ensemble, elle aimait beaucoup plus coucher avec des filles qu'avec des garçons, mais quand même, quelquefois, elle couchait avec des garçons. En 1965, elle est tombée enceinte une première fois et elle a abandonné son enfant à sa grand-mère. En 1967, elle est tombée de nouveau enceinte et elle a abandonné une nouvelle fois son enfant à l'adoption. Et en 1970, elle est retombée une troisième fois enceinte après une histoire de passage avec un homme marié. Et elle s'est dit « Stop, je vais me faire avorter cette fois-ci ». Mais Norma, elle habitait au Texas où l'une des seules situations où l'avortement était légal, c'était en cas de viol. Et donc Norma, elle a fait quoi? Elle a raconté des bobards, elle a dit qu'elle s'était faite violer par plusieurs hommes, alors que c'était pas vrai. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir des avocats, qui étaient des avocats engagés dans la lutte pour la légalisation de l'avortement. Et ces avocats, ils se sont dit, ça, c'est un cas qu'on est susceptible d'amener jusqu'à la Cour suprême. Ils ont changé le nom de Norma en Jane Roe, et ils ont réussi à mener l'affaire jusqu'au bout, au point que, en janvier 1973, la Cour suprême, par un vote de 7-2, elle a légalisé l'avortement. Alors, le jugement Roe contre Wade, il était très sympa du point de vue du droit des femmes, mais c'était beaucoup trop tard pour Norma, qui entre-temps avait accouché une nouvelle fois, et une nouvelle fois, elle avait abandonné son enfant à la DAS. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Juste après le jugement, Norma, qui avait dit entre-temps que c'était elle qui s'appelait Jane Roe, en fait, elle est devenue le visage du mouvement pour l'extension du droit à l'avortement. Elle est apparue dans des meetings, elle a fait des discours. Et puis, coup de théâtre, en 1995, elle a retourné sa veste. Norma est devenue le visage de la lutte contre le droit à l'avortement.
C'est dingue.
Alors, pour être honnête, 20 ans plus tard, elle a dit qu'elle avait accepté parce qu'elle avait été payée. Mais il y a un journaliste qui s'appelle Joshua Prager qui a mené l'enquête et qui a découvert qu'elle avait été payée très peu et surtout aussi qu'elle avait été payée par l'autre camp. Et donc, la vérité, elle est probablement beaucoup plus simple. C'est que Norma, d'une façon générale, elle en avait rien à battre de la lutte pour ou contre la légalisation de l'avortement. Rien du tout. Elle s'est juste retrouvée un petit peu par hasard au centre du plus célèbre cas traité par la Cour suprême au XXe siècle. Et elle a avoué elle-même ce qu'elle aimait surtout, c'était d'avoir l'attention des médias. Alors, une petite question qui reste, c'est que sont devenus les 3 enfants qu'elle a abandonnés?
Alors, on était à 4, hein.
C'était 3. C'est 3 enfants qu'elle a abandonnés. Et bien, il y a des journalistes et des enquêteurs qui ont réussi à les retrouver tous les 3. Ce sont 3 filles qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans et qui visiblement ont vécu des vies normales, ni trop heureuses, ni trop malheureuses, toutes dans la classe ouvrière américaine. Et chose intéressante quand même, elles sont toutes les 3 pro-avortement. Ce qui est assez étonnant, puisqu'elles doivent leur existence au fait que l'avortement était interdit. Voilà.
Alors, des choses comme ça.
Norma, elle est morte en 2017, et à la fin de sa vie, elle est tout de même revenue sur sa position initiale, et donc elle est morte en défendant l'avortement. Voilà, elle n'a pas connu en fait le moment qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que Roe versus Wade est en train d'être remis discuté, en question et discuté. Il va peut-être être même enlevé 50 ans après. Quoi.
Vous aviez raison, Mathieu, de dire que c'était une histoire passionnante. Merci David, on retrouve les origines
en podcast sur toutes les applis audio, évidemment, et puis en vidéo sur YouTube et Dailymotion ou sur le site Europe 1.fr.